Les MRC sont, à mon point de vue, devenues de très grosses machines. De ce qu'elles étaient il y a, je sais pas moi, 20 ans, quand j'entendais le préfet du temps se questionner sur le sort qu'on réservait aux MRC, l'aide qu'on donnait aux MRC, l'importance qu'on donnait aux MRC, ben je me dis qu'on a fait un grand bout de chemin, parce que les MRC sont devenus, et je le répète, à mon point de vue, de très grosses machines. Michel Lagacé est avec moi en studio. Bon matin, M. Lagacé.
Bon matin, M. Saint-Pierre.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que les MRC sont devenus de très grosses machines, dont les tentacules, appelons ça comme ça, se sont allongés. On est impliqué dans plein de choses. On est presque devenus des entrepreneurs.
Ben, je pense qu'il faut devenir, faut être des entrepreneurs lorsqu'on est une MRC. Effectivement, quand je suis rentré à la mairie en 97, il y avait 7 postes budgétaires à la MRC. On est rendu à près de 25-26. Donc, c'est autant de nouvelles responsabilités, compétences qui ont été confiées par le gouvernement ou sinon demandées par les municipalités locales.
Ouais. Est-ce que les MRC sont un peu devenus comme le sont les paliers de gouvernement, provinciaux et fédéraux, des instances décisionnelles qui dépendent énormément de leur personnel permanent? C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à gérer par des gens, dans le fond, qui sont pas des spécialistes de rien. Est-ce que ce sont les fonctionnaires qui gèrent les MRC?
Ben non, c'est d'abord le conseil de la MRC. Ce sont les élus qui effectivement dictent la voie à suivre.
Mais Jean Charest nous répondrait ça aussi. Stephen Harper nous répondrait
dans notre
ça.
Cas,
dans la réalité, là.
Dans la réalité, je vous parle de la réalité de tous les jours, c'est les élus qui dictent la voie à suivre au niveau des fonctionnaires de la MRC. Quand vous dites dans l'intérieur des territoires de la MRC, on n'a pas de spécialistes, effectivement, mais on a des gens qui sont extrêmement compétents et polyvalents. Je pense entre autres au directeur d'aménagement à la MRC, quand on a parlé de développement éolien, il nous a beaucoup accompagnés quand c'était le projet Sky Power. Quand on regarde le projet communautaire, on est en train de réaliser quelque chose qui va être extrêmement profitable pour les municipalités de la MRC de Gaspésie.
Quand je disais il n'y a pas de spécialiste de rien, je ne pensais même pas au permanent de la MRC. Je pensais aux maires qui sont autour de la table et qui composent le Conseil des maires. Et eux, quand les citoyens vont les élire, les citoyens les élisent au meilleur de leur connaissance, puis à partir de, comme on dit, des candidats disponibles sur le terrain, mais après, on a ce pour quoi on a voté, là, et autour de la table, là, au niveau du Conseil des maires, il y a des spécialistes dans fonction qui occupent dans la vie de tous les jours, mais à part de ça, il n'y a pas de spécialistes de rien. À la limite, ça pourrait être inquiétant. Vous trouvez pas?
Ben, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens qu'on élu.
Mais c'est là que ça commence à m'inquiéter.
Et moi, j'ai pas d'inquiétude.
Parce que quand vous dites, on est parti de 7 postes budgétaires, on est rendu à 25.
Oui.
Mais tout ça, géré, là, sur le plan légal, par du monde ordinaire?
Du monde ordinaire. Il y a plein de monde ordinaire qui gère plein de belles choses au Québec. Ouais. Lorsqu'on regarde l'état de l'entrepreneuriat dans les MRC de Gosselou, il y a plein de gens ordinaires qui réussissent très bien.
Non, mais le gars, il a sa business, il se plante, c'est son problème, mais quand tu gères l'argent du monde...
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on gère de façon très, très méticuleuse les données publiques. C'est pour ça que dans le projet communautaire, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un contrat avec Hydro-Québec, il n'y a aucun denier public qui va être investi dans le projet communautaire parce qu'effectivement, on gère des données publiques.
On m'a fait réaliser, moi, dans la dernière année, M. Lagacé, que la MRC de Rivière-du-Loup, qui gère sur le plan municipal un très gros budget, hein, parce que c'est la mer là qui est en haut, c'est le parapluie qui est en haut qui chapeaute toutes les municipalités qui sont là. Et il y a rien de plus inconnu que ce qui se dit, discute et fait à la MRC. Quand est-ce que vous allez démocratiser tout ça?
Ben d'abord, nos séances du conseil sont publiques.
Il n'y a personne qui est là.
Non, il y a quand même une ou deux personnes. Dans le temps où il y avait...
C'est énorme!
Non, c'est pas beaucoup, effectivement. On aimerait qu'il y ait plus de monde pour pouvoir entendre
quand
les poser
des questions. Quand est-ce que vous allez faire une démarche pour passer ça à Vidéotron? Pour qu'au moins je sois capable de m'installer dans mon salon et d'écouter sans avoir à me déplacer?
Ben, Vidéotron, c'est uniquement pour le secteur de la ville de Rivière-du-Loup, peut-être certaines municipalités en périphérie. Ouais. Donc, si on fait un geste, ça va être pour rendre accessible l'information partout sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Il y a une proposition qui nous est faite depuis quelques mois par la SADC, qui ont des équipements. Notre priorité actuellement, c'est de mettre en marche notre site web qui a été mis en marche pour rendre accessible l'information sur les procès-verbaux, les ordres du jour, les principaux règlements de la MRC, qu'on va pouvoir consulter les citoyens en ligne sur leur attente par rapport au développement de la MRC. Donc, je pense qu'on fait des pas importants au niveau de la MRC de Rivière-du-Loup. On va continuer à en faire parce que effectivement, il faut rendre l'information accessible le plus largement possible.
On était en train, avant que vous arriviez, de jaser comme ça, entre nous autres, des bons coups de la décennie, puis des mauvais coups de la décennie. Évidemment, comme on dit, on vous a ce matin, un petit commentaire en passant, les deux flops de l'année, c'est le terminal, puis Sky Power. Là, même si on se creuse les méninges pour trouver mieux que ça, là, moi, j'en vois pas.
C'est difficile.
Ouais.
Ça serait difficile.
Dans les deux cas, M. Lagacé, est-ce que vous diriez que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des points de convergence dans la raison de l'échec? C'est que dans les deux cas, malheureusement, on avait deux bonnes idées, mais on n'avait pas le bon timing. Ni à une place, ni à l'autre. Quand je dis qu'on n'avait pas le bon timing avec les éoliennes, bon timing est associé à peut-être pas le bon timing au niveau de ceux qui, à ce moment-là, étaient des précurseurs et qu'on appellera Sky Power, puis qui ne savaient pas trop comment ça marchait. Puis ça a donné les résultats qu'on connaît aujourd'hui.
Ben, essentiellement, effectivement. Par rapport à Sky Power, moi, je pense que ils ont passé davantage trop de temps à Québec, passé dans le milieu de la MRC de Rivière-du-Loup, ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas été capables de se connecter avec les besoins, les attentes du milieu de façon suffisante, entre autres par rapport à la population. Donc, un promoteur qui n'a pas su être sensible à la réalité du territoire.
Est-ce que la vie va tellement vite? Et les dossiers tellement nombreux que, dans le fond, 2009 est même pas fini, qu'on est déjà passé à un autre appel.
Ben, regardez, quand on parle de Sky Power, 201 MW, 134 éoliennes, un projet qui était honni par plusieurs. Là, on est sur un projet communautaire, 24 MW, qui va, normalement, si on est choisi, puis on l'espère être choisi parce qu'on a un excellent projet, va nous rapporter plus en termes de MRC, en termes de communauté locale, que ce que, avec 12 ou 16 éoliennes, que les 134 qui nous auraient procuré en 2005-2006.
Mais j'ai le goût de vous poser la question suivante, M. Lagacé. Comment on est passé à une espèce de territoire, l'Eldorado de l'éolien, pour se retrouver à un projet conditionnel? C'est-à-dire, si ça marche... Comment on est passé de tout à rien ou à pas grand-chose?
Ben, essentiellement, si la MRC se serait pas mis le nez dans ce dossier-là, après le rapport du BAP qui avait été dévastateur, il y aurait pas eu de suite au projet. Le projet aurait été mis au calendrier grec par le gouvernement du Québec. Ouais. La MRC a assumé ses responsabilités. On a mis en place des comités de travail sur l'acceptabilité sociale et en même temps aussi les intérêts économiques. Mm-hmm. Et on a fait, dans le fond, une entente qui a permis, on a présenté à la population, c'est une entente qui a permis au gouvernement de donner suite au projet.
Oui, mais quand je dis qu'on est pas de l'Eldorado de l'éolien, à entendre parler tous les représentants du secteur du temps, bonnes conditions de vent, puis vent régulier, puis tout ce qu'on veut. Comment ça se fait qu'on est passé de tout à rien? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on a l'impression qu'on n'intéresse plus personne?
Non, ça, c'est pas vrai. On intéresse beaucoup de monde. Je vous dirais même que dans le développement communautaire, Sky Power nous avait relancé. D'autres entreprises au Québec nous avaient relancé.
Dans le communautaire?
Dans le communautaire. Mais par rapport à Sky Power, c'est pas compliqué. C'est que eux, à 5,7 sous, ils voulaient pas faire d'affaires.
Oui.
Donc, c'est une décision d'affaires. C'est une décision d'entrepreneur.
Et mais actuellement... est-ce que ce qui nous bloque, c'est que tous leurs sites sont encore protégés?
Non, pas du tout. Parce que dans le 2000 MW que M. Leblond vous parlait tantôt, on avait un projet avec Sky Power dans le haut de... dans l'eau du comté qui couvrait Saint-François-Xavier-de-Bugé, notamment Saint-Antonin et en même temps Saint-Modeste. Oui. Donc, c'est un projet qui est extrêmement intéressant, extrêmement porteur, mais qui n'a pas été retenu par Hydro-Québec au niveau de la soumission. Donc,
mais je repose ma question. Oui. Comment se fait-il qu'on a l'impression qu'on n'intéresse plus personne? En fait, le projet communautaire, c'est nous autres qui doit s'inscrire dedans. C'est pas du privé, ça, là.
Oui, c'est du privé.
C'est du privé.
Oui, le projet communautaire, dans le fond, il faut qu'il soit sous le contrôle majoritaire d'un privé. Ouais. Donc, dans notre cas, nous, la MRC de Rivière-du-Loup, on a un promoteur privé avec lequel on a une entente. Et si ça n'aurait pas été du privé, ça aurait été la MRC qui aurait été le maître d'œuvre. On aurait été obligé d'aller en appel d'offres pour choisir notre promoteur privé.
Okay.
Étant donné que c'est le privé qui nous a approchés, ben, à ce moment-là, on travaille avec Énergex.
Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que les sites de Sky Power restent des sites protégés? Vous m'avez répondu que non. Est-ce que ça veut dire que...
Ils sont protégés, mais ils ne nous empêchent pas de faire un développement éolien ailleurs sur le territoire
oui,
de la MRC.
Oui, oui, oui. Mais je veux dire, tous les sites que Sky Power voulait exploiter leur appartiennent encore, c'est-à-dire qu'ils continuent d'envoyer des chèques aux propriétaires.
Oui, il y a des droits d'option et lorsqu'on a eu des rencontres à Saint-Paul-la-Croix cet été, il y a des gens qui nous disaient qu'ils avaient encore reçu des chèques dernièrement.
À la limite, est-ce que ça pourrait devenir un empêchement? C'est-à-dire que si Sky Power spécule sur ces droits-là, éventuellement, ça pourrait nous bloquer, et pas à peu près.
On a beaucoup d'autres territoires, oui. Monsieur Saint-Pierre, lorsqu'on regarde l'immense forêt publique.
Mais il y avait supposément les meilleurs, eux autres.
Ben, regardez, c'est sûr que lorsqu'on regarde autour de Kakuna, ça se pouvait que ce soit les meilleurs vents, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaitait d'avoir 72 éoliennes au nord de la 132, de la 20, pour obstruer les immenses paysages qu'on a vers la côte nord? Pas personne, là.
C'est quoi le meilleur projet de 2009? C'est quoi le meilleur coup de la MRC en 2009?
Moi, je vous dirais qu'on en a...
Passé à travers de ça sans être mort?
Non, on en a sûrement deux. Je pense qu'on a beaucoup appris. Hein? Ouais. Le fait d'avoir œuvré avec Sky Power nous a amené à développer une expertise extrêmement intéressante à l'intérieur de la MRC. C'est pas pour rien qu'on s'en va sur un contrat, sur une entente avec Innergex, qui va... très profitable pour les communautés rurales parce qu'on a développé une expertise qui nous est propre. Donc, oui, le projet communautaire, ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est un élément qui est très intéressant. La méthanisation, c'est un projet qui est issu de la MRC de Rivière-du-Loup en 2007 et qui a trouvé ses racines en partenariat avec la ville de Rivière-du-Loup et aussi Envirogaz. Ça, je pense que c'est vraiment la pointe de l'iceberg par rapport à la méthanisation. Ouais. Si on est capable de réaliser tout ce que cette filière-là nous promet au niveau de la MRC de Verzou, ça va être prodigieux.
Comment chacun va tirer son profit dans ce projet de méthanisation, là, une fois que ce sera plus un projet, que ça va être une réalité? Combien ça nous aura coûté par rapport à ce que ça va nous rapporter?
Dans le meilleur des cas, là, actuellement, on a des c'est public, ça, là. On a environ $15,000 au niveau des frais d'avocat pour... c'est une structure, c'est une nouvelle structure. Oui. On est la première société d'économie mixte au Québec qui a été créée au niveau de la loi de la société des économies mixtes. Donc, ça nous a amené à faire un peu de dépenses là-dessus. Mais on parle d'environ 10-15 000 $.
En termes d'engagement comme partenaire financier?
Ben, on va faire un emprunt. Actuellement, un projet d'environ... On parle d'un projet d'environ 14 millions et on parle d'un emprunt d'environ 4 millions. Et là-dessus, le reste, ça va être des subventions, autant fédérales que provinciales. Et ça, je pense, c'est une excellente nouvelle. Étant donné qu'on est les premiers au Québec, les véritables premiers, on peut aller chercher davantage de subventions. Puis ça, je pense, c'est une bonne nouvelle pour le territoire.
Mais mettons une petite municipalité comme Saint-Paul-de-la-Croix.
Ouais.
D'ailleurs, Saint-François-Xavier est la plus petite, je présume, de la MRC.
Dans ce cas-là, il y a Notre-Dame des Sept-Douleurs, mais elle n'est pas touchée par le projet de méthanisation.
Eux autres, là, ils vont tirer leur profit de ça comment?
Ben, essentiellement, c'est d'abord de participer au plan de gestion des matières résiduelles. On a l'obligation de récupérer les matières putrescibles. Là, nous, on va le faire autant au niveau des matières végétales qu'animales. Et... dans l'intérieur des 18 premiers mois, on anticipe des profits de $300,000. Fait que $300,000 pour ce qui est ils vont avoir une répartition en fonction du tonnage, donc des un peu mathématiques entre les intrants et ce qui est fourni par la municipalité locale. Donc, en bout de ligne, comment il va arriver de denier de surplus au niveau de Saint-François-Xavier, ça, je pense que la formule mathématique va nous le dire.
Monsieur Lagacé, le réseau d'informations sur les municipalités qui regroupe des gens que vous aimez pas nécessairement.
Non, moi j'apprécie beaucoup la fait qu'ils puissent effectivement souhaiter davantage d'informations au niveau des citoyens de la MRC.
Bon. Qu'on pourrait greffer Saint-Paul-la-Croix, l'Île-Verte et Saint-Cyprien à la MRC des Basques pour lui donner un peu d'air d'aller. Vous en pensez quoi?
Ben, essentiellement, c'est pas en cause que tu rêves à quelque chose la nuit que tu es obligé de le dire le lendemain matin. Ça je pense que ça... D'abord, il faut le dire, il y a une affaire qui n'a pas de sens. Ça. C'est quand que ce communiqué-là fait état de dire... Pour ce qui est du développement de la méthanisation, développement éolien, développement des mini-centrales, arrêtons ça. Ce qui va, dans le fond, favoriser le développement économique des Basques, c'est le transfert de trois municipalités, l'Île-Verte, Saint-Paul et Saint-Cyprien. C'est parce qu'il faut savoir aussi c'est quoi les impacts. Quand on regarde l'organisation de santé et services sociaux au Québec, ça fonctionne par MRC. Il y a un an et demi, il y a un cercle soldé qui s'est construit à Saint-Cyprien. On déplace Saint-Cyprien vers la MRC des Basques. Il y a un surplus de lits théoriques au niveau de la MRC des Basques. On fait quoi? On ferme où? On ferme-tu Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Cyprien, Trois-Pistoles, une partie?
Mais est-ce qu'il y a vraiment un surplus de lits s'il y a trois évident. Nouvelles municipalités qui s'ajoutent?
C'est évident.
Non, mais il faut en tenir compte, M. Lagacé. Là. Si, oui. Et, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a un CLSC qui s'amène pour la même densité de population. Non, il y a trois municipalités de plus.
Oui, mais on est... Dans le cas de Saint-Cyprien, on couvre toute la portion sud du territoire. Ouais, ouais, donc ouais. Ça, c'est une portion qui est beaucoup plus importante que le 3000 de population qui serait transférée vers Trois-Pistoles. Saint-Paul-la-Croix, la seule municipalité fortement dévitalisée de la MRC de Rivière-du-Loup qui fait en sorte qu'on ait un contrat de diversification. 600 000 $ sur 5 ans pour favoriser la diversification du territoire de la MRC, notamment des communautés rurales. Ouais. Si Saint-Paul-la-Croix n'est plus dans la MRC de Rivière-du-Loup, il n'y a plus de contrat de diversification. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres municipalités qui ont des besoins? Ouais. Exemple, Saint-François-Xavier de Bugé, Saint-Hubert notamment, Saint-Épiphane. Donc ça, aussi, je pense que c'est un élément majeur.
Donc, pas une bonne idée.
Ben, regardez, l'île verte, dans le fond, tant qu'à transférer l'île verte, il aurait fallu suggérer aussi Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, parce que le port d'attache à la terre ferme de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, c'est l'île verte.
Ouais. Donc, mais ça change rien, ça, là.
Ben, regardez, c'est comme ça.
Je veux dire que le bateau, que demain matin, que la traverse Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, aboutisse dans la MRC de Rivière-du-Loup, ou dans la MRC de Kamouraska, ou dans la MRC des Basques, qu'il faut bien qu'il arrête à quelque part.
Non, là. Mais ça fonctionnerait pas, là, parce que on est sollicité financièrement.
Non, mais écoutez, M. Lagacé, moi, je suis pas en train d'essayer de vous vendre le projet, je fais rien que vous demander ce que vous en pensez.
Ben, regardez, je pense que la MRC des Basques a besoin d'autres choses. Ouais. Lorsqu'on regarde les projets qui sont levés actuellement par la MRC, je regarde le Mère, Terre et Monde, Saint-Mathieu, c'en est un projet qui est intéressant. La mini-centrale, c'est un projet qui est intéressant. Ce qui va se passer au village Cotte à Saint-Guy, c'est un projet qui est aussi intéressant. Donc, moi, je pense que ce qui amène une vitalité, oui. Le fait que les jeunes s'extirpent plus de ce territoire-là, ben, c'est de l'emploi. Donc, le défi de l'emploi est beaucoup plus important que le défi des déplacements des populations. C'est pas le déplacement de trois communautés dévitalisées qui va améliorer le sort de la MRC des Basques. C'est pas ça, je pense.
L'élection d'un préfet au suffrage universel, est-ce que c'est encore à la mode? Bon, parce qu'on sait que dans Kamouraska, c'est au suffrage universel, les Basques au suffrage universel, Témiscouata au suffrage universel. Est-ce que Rivière-du-Loup résiste à une tendance ou bon, parce que on a même vu Serge Fortin là être plébiscité à toute fin pratique par les maires de la MRC. Votre point de vue là-dessus, c'est quoi? Premièrement, êtes-vous la bonne personne à qui on doit poser la question? Vous êtes préfet.
On est un élu. Je suis un élu au même titre que les autres. Et quand on vient le temps de supposer le pour et le contre, ce qui est clair, c'est que quand vous parlez d'une tendance, c'est pas une tendance lourde. Dans les 10 dernières années, on pense actuellement, je pense qu'il y en a 10 ou 11 préfets sur près d'une centaine au Québec. Donc, c'est une tendance.
Donc, ça veut dire que ici, là, c'est une formule qui a collé. Parce que si on dit qu'il y en a 10 ou 11 au Québec, puis que rien qu'à l'entour de nous autres, on en a 3.
Il y en a 4 au Bas-Saint-Laurent, incluant la Matapédia. Ouais. Et donc, c'est effectivement pour ce
Pourquoi c'est pas une bonne idée, donc, d'aller en suffrage universel, au suffrage universel?
On ne dit pas que c'est pas une bonne idée, mais à ce moment-ci, c'est pas un besoin qui semble émerger de la MRC de Rivière-du-Loup. Ouais. On avait dit qu'on souhaitait davantage de services aux citoyens. On a mis en place des ressources, un peu plus de ressources au niveau de la MRC. Pour ce qui est d'actuellement, la façon dont les choses se comportent au niveau de la préfecture, on a suffisamment de temps
Semble que fondamentalement, ça donnerait tellement plus de marge de manœuvre à un préfet quand il est élu au suffrage universel que quand il est tributaire de la ville-centre.
Ben, regardez, ça ne change rien, ça.
Ben oui, ça change quelque chose.
Ça change rien.
Même si vous me dites que ça change rien, ça change quelque chose.
Quand le maire de Montréal éternue, ça risque de donner la grippe à M. Charest.
Ouais.
Lui, dans le cas de M. Tremblay, quand ça étend de brosser la cage à M. Charest, il brosse la cage.
Ouais.
Puis, quand ça étend, effectivement, d'y bloquer des choses, il bloque des choses. Mm-hmm. On sait comment ça fonctionne un peu entre Montréal et le gouvernement du Québec.
Oui,
Je pense pas que les choses changent.
Mais on sait que dans nos petites communautés, quand le préfet fait plus l'affaire, c'est toujours la ville-centre qui le fait sauter. Tout le temps.
Je vous dirais que ça fait quand même une quinzaine d'années que j'étais à la MRC, là, puis le maire de ville s'est tenté à l'occasion, au début, par une couple d'occasions, de faire sauter le préfet du temps, puis ça n'a pas fonctionné parce que les ruraux se sont tenus un peu serrés.
Ouais.
Donc, c'est pas vrai que le maire de ville peut dicter la voie à suivre. Mm-hmm. C'est clair que je pense qu'il faut créer de la chimie, une espèce d'osmose entre à l'intérieur du conseil de la MRC. C'est rare qu'on fait le 100%. Ça, je vais être très franc avec vous. Il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment moins. Puis ça, je pense que c'est normal. C'est comme dans chacun de nos milieux locaux.
Mais vous avez pas l'impression que votre liberté d'action et de penser serait augmentée si vous étiez élu au suffrage universel?
Non, c'est les élus locaux qui lèvent, dans le fond, les impôts qui servent à alimenter les quatre-parts de la MRC. Le préfet, dans son bureau seul, même s'il est élu au suffrage universel, ça n'y amène pas le don divin pour diriger puis décider de tout. Il faut qu'il se lie avec le conseil de la MRC.
Le plus grand défi de 2010, c'est quoi?
Ben essentiellement, moi je pense qu'il y en a au moins trois. C'est puis peut-être même un quatrième. D'abord, le projet de lien communautaire, c'est un must. La méthanisation avec tout ce que ça permet d'anticiper en termes de développement au niveau de la MRC de Virsloo, ça je le répète, M. Saint-Pierre. Là-dessus, on va là, au niveau de la MRC de Virsloo, avec la ville, on va devenir un phare au niveau du Québec, au niveau de la méthanisation. Il y a plein de MRC au Québec qui nous appellent actuellement. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important. Les crédits aux régions ressources, je pense qu'on va avoir... on a l'appui de M. Béchard sur ce dossier-là. Je pense qu'on va avoir aussi l'appui de M. Damour par rapport à la réalité propre de la MRC de Virsloo. Donc ça, c'est un dossier qui nous interpelle et on ne devra pas baisser les bras et voir de quelle façon on peut effectivement, pour ce qui est du quatrième objet, donner suite à ce qui est arrivé avec Sky Power.
Carrefour Maritime, vous en avez pas parlé. Est-ce que ça reste un projet local plus qu'un projet régional?
Non, c'est un projet qui est aussi porté par la MRC de Virsloo. Je dirais même qu'il est supporté par la crise Bas-Saint-Laurent parce qu'on a mis une trentaine de mille dollars pour faire les études là-dessus. Donc, le Carrefour Maritime, c'est une porte d'entrée importante. Si je n'en parle pas, c'est qu'effectivement, c'est davantage un projet qui est supporté par la ville de Rivière-du-Loup à ce moment-là.
Est-ce que vous vivez bien avec le fait que dans les deux dernières campagnes électorales provinciales, on a inclus l'appellation Rivière-du-Loup, les Basques, dans le langage populaire et que on tient maintenant à faire la démonstration que dans ce comté-là, il y a deux réalités, il y a celle de Rivière-du-Loup et il y a celle des Basques. Vivez-vous bien avec ça ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train peut-être de tirer de la couverte là?
Moi, aucun problème là-dessus, au contraire. Moi, je pense qu'il faut que le territoire, la circonscription reflète les enjeux qui y sont propres. Rivière-du-Loup est un élément important, mais la MRC des Basques est aussi un élément important. Donc, quand on parle de sentiment d'appartenance, de fierté, d'appartenance au territoire, j'ai aucun problème là-dessus. D'ailleurs, la MRC de Rivière-du-Loup l'a souhaité.
Monsieur Lagacé, merci et bonne année.
Vous aussi, une bonne et heureuse.